Direct en jeu, le Radio Insolite, toujours à Cannes, mais toujours pas au Palais des Festivals. Ben oui, il y a plein de choses autour du Festival du Film. Puis il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi la musique. Et là, je suis avec quelqu'un qui, officiellement, est censé être sérieux. Je ne l'ai pas trouvé très sérieux durant le concert.
Il faut faire les choses légères avec beaucoup de sérieux et les choses sérieuses avec beaucoup de légèreté. C'est ma philosophie.
Il va falloir que je réfléchisse sur tout ce que vous m'avez dit. À qui ai-je le plaisir?
Benjamin Lévy, je suis le directeur musical de l'Orchestre national de Cannes.
Alors, quand on dit orchestre national, on a l'impression qu'on va avoir 200 musiciens. Là, il y en a un tout petit peu moins.
Oui, c'est un orchestre de chambre, l'Orchestre de Cannes. Il y a une quarantaine de musiciens. Voilà, il y a le grand orchestre où il y a 70 musiciens, et là c'est le petit frère un petit peu. Voilà, mais on peut faire beaucoup beaucoup de répertoires, dont ces baby concerts que vous venez d'assister, n'est-ce pas?
Si vous me posez des questions, alors je trouve ça extraordinaire le concept de baby concert, parce que c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, avec des pièces musicales qui ne durent pas longtemps et qui sont tout à fait accessibles.
Alors, au départ, j'avais vu quelques concerts faits pour les enfants. J'avais vu en vidéo une violoniste, une Hilariane, qui faisait des concerts tout seule. Elle était toute seule, et donc il y avait les enfants qui venaient autour d'elle. Voilà. Et donc ça, et je c'est vraiment une bonne idée. Et du coup, j'avais vu aussi d'autres baby concerts avec d'autres orchestres. Et alors, donc on a voulu faire ça. Et les premières expériences, je me suis dit, il faut pas faire des choses trop bruyantes, des choses trop fortes, pour que les enfants n'aient, parce que les oreilles des tout petits sont très très sensibles. Et donc d'ailleurs là, il y a encore des petits qui mettent des petits casques anti-bruit, parce qu'effectivement certains ont les oreilles très sensibles. Et donc on faisait des choses très douces. Et en fait, c'était pas une très bonne idée, parce que dès qu'il y avait des petits cris, des petits pleurs, etc., les autres n'entendaient pas. Et donc avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce qui était bien, c'était des pièces assez entraînantes, assez avec un bon volume quand même, et assez courtes. Voilà. Et puis voilà, et ça fonctionne très bien. J'adore. Moi, je suis très en retard dans ma vie. J'ai 50 ans et j'ai toujours pas d'enfants. Et du coup, je trépigne d'avoir des enfants. Et donc, je suis émerveillé, ébahi devant toutes ces petites mains qui applaudissent et tout. Je trouve ça tellement mignon. Et puis, ce qui est bien aussi, ces baby concerts, c'est que ça permet aux parents. Il y a une petite sélection par l'argent des concerts quand on est jeune parent, parce que soit on a les moyens et on a des nounous, etc. Donc on confie les enfants aux nounous et on va au concert, on va au spectacle, on va au théâtre. Mais quand on a moins de moyens, on reste à la maison, et donc on peut, les premiers mois, premières années, on peut pas trop sortir, aller au théâtre, au concert. Et du coup là, c'est quand même l'occasion aussi pour les jeunes parents de pouvoir venir au concert avec leurs enfants, même très jeunes. Et ils ont le droit de pleurer. Enfin, je parle des enfants. Les parents ont le droit de pleurer aussi. Mais ils ont le droit de se déplacer un petit peu, etc. Et du coup, c'est aussi un moyen aussi pour les parents de pouvoir écouter un peu de musique. Je leur ai dit tout à l'heure qu'ils avaient le droit de dormir aussi, parce que je sais qu'on est très fatigué quand on a des jeunes enfants. Et donc voilà, tout ça se passe vraiment dans Là, vraiment une bienveillance folle, et je suis très reconnaissant aussi à tous les musiciens de l'Orchestre national de Cannes, puisqu'ils restent un peu à la fin du concert pour que les enfants s'approchent et puissent entendre, presque toucher les instruments. C'est très, très touchant tout ça.
Alors, attendez, quand on dit orchestre national, on pense à orchestre symphonique. Votre répertoire, il sort de l'ordinaire là. C'est parce que c'est pas du classique.
Alors, on fait justement, il y a plein de choses en fait qui permettent de. Moi, je trouve que de toute façon, le répertoire de l'orchestre est énormément diversifié maintenant. En termes d'époque, c'est vrai que quand je faisais mes études il y a 30 ans maintenant, au Conservatoire de Paris, le répertoire des orchestres traditionnels allait de. Enfin, vraiment, c'était. La fin 18e à voilà, mi-20e. Et du coup, le répertoire s'est vraiment beaucoup élargi. On fait du baroque, on fait des choses très contemporaines. Et aussi, en termes de style, ça s'est beaucoup élargi, puisque là, on a joué un arrangement sur une chanson traditionnelle sud-américaine qui s'appelle Tico Tico, un arrangement très bien fait. Finalement, en fait, il n'y a pas tellement de questions de style, il y a question de qualité. Là, c'est un excellent arrangement, c'est très bien écrit pour l'orchestre. Donc ça marche très bien. Des petites pièces de, par exemple, un compositeur américain qui s'appelle Leroy Anderson, le roi Anderson, le pape de la musique légère américaine, musique des années 50, plein de choses très, très amusantes et très bien faites, très bien faites. C'est encore une fois une question, il n'y a pas de hiérarchie, il y a juste la musique qui est bien faite, bien écrite. Et il reste. On a quand même joué un mouvement d'une symphonie de Beethoven, parce que voilà, c'est aussi un scherzo de la troisième qui est entraînant, une petite ouverture de forêt. Et tout ça, c'est. Voilà. Et puis, il y a des petits arrangements de musique de film. Tout ça, quand c'est bien fait, on peut jouer tout. C'est ça qui est formidable, cet orchestre. De toute façon, avec cet orchestre, depuis 10 ans que je suis directeur musical ici, on a exploré énormément de répertoires et on s'est rendu compte que finalement, ce qui est important, c'est la qualité de l'écriture et pas tellement le type de répertoire. Il y a eu des expériences plus ou moins heureuses par exemple, d'arrangements, de choses un peu pop, mais qui n'étaient pas très bien faites. Voilà, et ça, vraiment, ce n'est pas une question de style de musique. On a fait une chose que j'adore, par exemple. Il y a des arrangements de chansons de Barbara par un arrangeur magnifique qui s'appelle Fabien Cally, qui est compositeur d'ailleurs. Et voilà, j'ai dit le mot. En fait, pour faire des bons arrangements, il faut être compositeur. Et donc, ce garçon est compositeur. Il a fait tout un album de chansons de Barbara avec une chanteuse qui s'appelle Noémie Weisfeld. Et on a fait ça il y a 2 saisons. C'est absolument remarquable. Et du coup, on peut faire plein de choses quand c'est bien écrit.
Alors, on n'est pas dans le centre-ville de Cannes, on est dans une salle qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'il y a une très grande proximité avec le public. Et en plus, vous y mettez une âme assez conséquente. Par exemple, vous avez joué un titre pour votre grand-mère.
Ah oui. Ça, c'est un. Parce qu'au moment de choisir le programme, donc voilà, il y a une petite. Oui, ma grand-mère qui est décédée maintenant il y a assez longtemps, ça fait, en 2011, donc ça fait 14, 5, 15 ans. Et elle aime jouer une petite valse qui s'appelle Sobre las olas, sur les flots. Petite valse mexicaine qui devait. Bah, elle était née en 1915, donc ça devait être un truc, je pense, des années 20-25. Ou peut-être plus ancien, je ne sais pas. Faudrait que je regarde quand ça a été écrit. Et donc voilà, j'aime bien aussi dur de petites anecdotes comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce cliché un peu qui nous colle à la peau de musique élitiste, que c'est froid. C'est vrai que souvent les interprètes, ils parlent pas. Voilà, on arrive, on joue et puis on s'en va. Et là, je trouve que c'est important de. Bah, je me dis toujours, vous savez, il faut prendre le public tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. En France, la musique, ça fait pas partie de la culture générale. On n'est pas comme en Angleterre, on n'est pas comme en Allemagne, où si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et vous demandez est-ce que vous savez qui est le directeur musical de l'orchestre de Berlin, je pense qu'à Berlin, les gens savent, ah oui, c'est un tel. Je pense qu'en France, si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et dites est-ce que vous savez qui est Pierre Boulez? Ils vont peut-être en entendre vaguement parler. Est-ce que vous connaissez Debussy? Oui. Ravel, oui, le boléro de Ravel. Mais si on dit qui sont les grands créateurs français connus, c'est les créateurs de mode, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Ça, c'est des créateurs très connus. Peut-être les écrivains, si on dit qui est Molière, ça, je pense que quasiment tout le monde a entendu parler de Molière ou de Jacques Prévert, voilà, plus proche de nous. Mais donc, la musique n'est pas, fait pas partie intégrante du cursus de l'éducation générale. Et donc, il faut prendre le public par la main, moi, je trouve. Il faut le guider parce que on se sent un petit peu en minorité, dans une sorte de minorité qui est soumise à beaucoup de clichés. Moi-même, je fais partie d'une minorité qui est soumise à beaucoup de clichés également.
Justement, je trouvais qu'il y avait un côté très pédagogique. C'est carrément, ça peut inspirer un enfant que de se mettre à la musique.
Ah oui, j'espère, j'espère. Oui, que finalement, il y a deux. Parce que ça fait aussi écho à ce que j'ai ressenti moi. Je me souviens très très bien du premier concert que j'ai entendu. C'est mon papa qui m'avait amené au Châtelet. Je me souviens, c'était. Je devais peut-être avoir. C'était pas très tôt, hein. J'avais peut-être 11 ans. J'avais pas genre 4 ans comme les enfants prodiges. Ah oui, j'ai entendu mon premier concert à 2 ans et demi et à 6 ans, je donnais mon premier. Non, j'avais peut-être 10-11 ans. C'était au Châtelet, je me souviens. C'était l'Orchestre national de France avec Laurie de Mazel. Et j'ai une symphonie de Beethoven. Et je me souviens du son de l'orchestre. Je m'en souviens vraiment. Je disais, mais c'était. Je me suis dit, c'est incroyable le son que fait cette machine, l'orchestre. Et donc, je voudrais vraiment que les enfants aient les Américains, ils appellent ça, et j'aime bien, ils appellent ça le wow effect. Wow! Et C'est vrai que c'est. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des bonnes salles. Des salles où le son est enveloppant. Parce que si on a des salles où ça ne sonne pas bien, ben, l'expérience est totalement ratée. Et donc, oui, et puis après, oui, écouter de la musique et faire de la musique. De toute façon, c'est une école de la vie formidable, la musique. Et la musique d'ensemble, c'est une école de la vie formidable, puisque il faut d'abord. On doit d'abord écouter, après on joue. On ne peut pas jouer sans avoir écouté d'abord. C'est une très bonne école de la vie. Et puis aussi, c'est une très bonne école dans l'orchestre, je trouve. C'est vraiment un bel exemple de société, puisque on a tous besoin les uns des autres. Les violonistes, ils savent pas du tout jouer de clarinette, et le clarinettiste, il sait pas du tout jouer de la trompette. Et pourtant, chaque personne a besoin, les violonistes ont besoin du clarinettiste, qui a besoin de la trompette, qui a besoin du percussionniste, qui a besoin du bassoniste, qui a besoin du chef d'orchestre pour jouer ensemble, etc. Donc il y a une sorte de chacun a ses qualités. Et à son expertise, et personne n'est plus indispensable que l'autre. Et ça, je trouve que c'est une très belle leçon.
Alors pour finir, je suis un peu ennuyé parce que bah, logiquement, il y a d'autres demi-concerts, mais ils sont tous complets.
Ah oui, c'est le dernier de la saison, là. Oui, ça a beaucoup de succès, effectivement. Parce que, oui, ça a beaucoup de succès. Et vous avez raison, on n'est pas dans le centre de Cannes. Au début, je me suis dit, est-ce que les gens vont venir ici? Parce que on est quand même entre les Simons Lafarge et le magasin Butte. Ah, faut peut-être pas citer de marque. Ah oui, en plus, les Simons Lafarge, ils sont pas en.
C'est surtout quand même l'inspiration.
Et non, mais c'est vrai, c'est une zone industrielle où on est. Autour, il y a surtout, effectivement, des entreprises, etc. Donc les gens doivent vraiment prendre leur voiture, le bus, voilà. Parce que Cannes est une ville très étendue, en fait. Elle n'est pas très profonde dans les terres. Quand on remonte vers le nord, donc quand on va dans les terres, on passe rapidement à une autre ville. Mais par contre, d'un bout à l'autre de la baie, c'est très long. Hein. Je ne sais pas combien de temps il faudrait pour marcher. Là, on est vraiment au bout de Cannes, vers Mandelieu, donc vers l'ouest. Et je pense que pour aller de là où on est.
25 minutes.
Ah oui, mais je pense même plus. Je pense qu'il faudrait presque 1 heure pour faire toute la côte cannoise, en fait.
Pardon, c'est vrai, je me balade en moto, pas en voiture.
C'est ça. Et du coup, c'est une ville très étendue. Et du coup, c'est vrai que les quartiers sont quand même éloignés les uns des autres. Et au départ, je me disais, bon, les gens ne vont jamais venir. Voilà. Mais en fait, les gens viennent avec plaisir.
Bah, disons qu'il y a le Cinéum, qui est l'un des cinémas les plus importants quand même à Cannes. Il y a aussi, comment dire, il y a l'université Méliès.
De développer l'ouest de la ville, ce quartier, la Boca. D'ailleurs, je crois que c'était deux villes au départ, il me semble, hein, qu'il y avait Cannes et la Boca. Voilà, et donc.
Puis il y a le stade de foot où a joué un dénommé Luis Fernandez, je crois,
Ah,
quelque chose comme ça.
ah, je ne savais pas, il était là, Luis Fernandez.
À Escane, exactement.
Présidente de l'orchestre et présidente également de la SCAN. Voilà, donc choisis bien ses équipes, Madame Courtade.
Quel est votre rêve? Vous en avez encore? Enfin, j'espère quand
Ah
même.
oui, bien sûr. Alors, pour cet orchestre, je rêverais de plusieurs choses. Je rêverais qu'on ait vraiment une salle. Elle est pas mal, notre salle, mais ça pourrait être une salle de concert. On pourrait avoir une vraie salle de concert vraiment dédiée à l'orchestre qui sonne mieux. Voilà, où les gens aient une expérience de concert plus envoûtante. Et l'autre chose aussi, je trouve que l'orchestre n'a pas réussi, pendant toutes ces années, je n'ai pas réussi à faire que le festival du film, puisqu'on parlait au début de notre conversation, s'intéresse à la musique et s'intéresse à nous, l'orchestre de Cannes. Je pense que la direction du festival a peut-être une vision un peu clichée, on y revient, de l'orchestre, parce que c'est ringard et qu'on joue en queue de pie et on joue en perruque blanche. Enfin, je ne sais pas quel est le cliché qu'ils ont en tête, mais je vais vous citer une petite anecdote. Eh bien, cette année, on remet une palme d'or d'honneur à Barbara Streisand. Et voilà, Barbara Streisand, une immense chanteuse, on a la chance qu'elle vienne. Elle a chanté par exemple Yentl, ce film, qui a eu l'Oscar de la meilleure musique de film, Michel Legrand, compositeur iconique de musique de film français. Eh bien, impossible que l'orchestre apparaisse pendant le festival pour rendre hommage à Michel Legrand, à Barbara Streisand, etc. Tout ça est très timé par les temps d'antenne de télévision. Et voilà. Et ça me désole parce que je trouve que c'est pas bien. parce que justement ça permettrait de montrer au grand public que l'orchestre c'est indispensable, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle où on peut faire de la musique et on dit à un ordinateur fais-moi une musique dans ce style. Les compositeurs de musique de film sont très inquiets et donc c'est indispensable, c'est irremplaçable d'avoir des musiciens vivants et je trouve que c'est la mission d'un festival. Vraisemblablement, je pense le plus grand festival de films du monde, il me semble, hein, voilà, de montrer ça. Et je me désole que le festival n'y soit pas sensible. Et c'est un rêve que j'ai et aussi une vraie déception que j'ai eue de pas faire en sorte que la musique ait vraiment sa place et l'Orchestre national de Cannes ait sa place au Festival international du film.
Il y a des temps forts quand même musicaux, mais c'est vrai que c'est dans le cadre du festival, mais ce n'est pas couvert par le festival, ça c'est important. Prochain rendez-vous, c'est quoi ?
Alors, le prochain rendez-vous pour moi ici, c'est une fin juin, 28 juin. Ça s'appelle Une œuvre, une heure. C'est une série qu'on a créée parce que j'aime beaucoup expliquer, prendre le public par la main. Et là, donc, c'est le dernier Une œuvre, une heure de la saison et c'est sur le tombeau de Couperin de Ravel qu'on jouera à la fois au piano avec Valérie Schaeffer, pianiste, et l'orchestre. J'expliquerai ce que c'est que l'orchestration.
Merci à vous.
Merci.